La fabrique citoyenne. La fabrique citoyenne, imaginée par AnimaFac, réseau national d'échange d'expériences et de ressources pour les initiatives étudiantes, est un dispositif mis en place pour répondre à certaines problématiques. La participation citoyenne se limite-t-elle à déposer un bulletin dans une urne tous les 5 ans? Quelle est la place de la jeunesse française dans le débat public? Les sujets politiques sont-ils trop complexes pour que les citoyens s'y intéressent et y prennent part? Et s'ils le faisaient, quelle vision ou modèle de société et quelles mesures en découleraient? La fabrique citoyenne a cherché à répondre à ces questions en réunissant 40 jeunes, 10 heures par jour durant 6 jours, au sein d'un dispositif savamment réfléchi. Ce groupe de 40 jeunes de 16 à 30 ans a été composé par un institut d'études de marché afin d'être représentatif de la diversité d'âge, de genre, de situation sociale, scolaire, professionnelle et de sensibilité politique de la jeunesse française. Réunis durant 6 jours, dont 3 ont été dédiés à l'information et la formation avec des experts qui ont apporté des positions pluralistes et contrastées afin que ces jeunes puissent se forger un avis, et 3 autres jours de délibération collective, un temps d'échange, de débat, d'écoute, durant lesquels ils sont passés du « je » au « nous » en transformant les opinions individuelles en propositions collectives. 50 propositions en sont ressorties autour d'une question: dans quelle société souhaitons-nous vivre en 2017? Vaste question déclinée sous 3 grands axes: l'école, l'économie et l'Europe. Les travaux et propositions réalisés ont été ensuite remis à chaque parti représenté aux élections présidentielles, qui ont tous été invités à y réagir au cours d'un débat organisé lors du Forum national AnimaFac à la Halle de la Villette le 17 février dernier. Lors de ce débat, les 40 jeunes de la fabrique citoyenne ont présenté leurs travaux aux 5 partis ayant répondu à l'appel, à savoir Europe Écologie, représentée par Eva Joly, l'UMP, représentée par Benoît Apparu, le Modem, représenté par Jean-Noël Martin, Martine Billard pour le Front de Gauche et Vincent Payon pour le Parti Socialiste. Un débat que la Grenouille vous propose de revivre chaque jour jusqu'à dimanche à 18h30. Aujourd'hui, c'est Benoît Apparu, représentant Nicolas Sarkozy, qui se voit confronté aux propositions de la fabrique citoyenne. Bonne écoute.
Monsieur Apparu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'AnimaFac et de rencontrer les 40 jeunes membres de la fabrique citoyenne qui ont donc planché pendant 6 journées entières sur cette question qui est: quelle société voulons-nous en 2017? Et avec trois coups de zoom sur l'économie, l'école et l'Europe, vous représentez M. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle. Vous avez donc la charge de réagir à cet avis au nom de M. Sarkozy. Alors, vous avez reçu l'avis, vous avez vu la manière dont les jeunes ont pris en compte cette dimension de la société voulue et formulé des propositions. Une première question, c'est quelle est votre réaction à une démarche comme celle-là, où des citoyens profanes prennent en main une question politique et vont jusqu'à formuler des propositions?
Il y a deux sujets, me semble-t-il, différents dans votre question. Premier sujet, est-ce que les citoyens doivent participer d'une façon ou d'une autre, à fabriquer la décision politique? La réponse est oui. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé la bonne méthode pour le faire. Et là, je trouve qu'on a une méthode intéressante. Pourquoi? On n'est pas dans la méthode du sondage, où on va simplement questionner les gens sur un sondage avec un résultat scientifique qui est assez relatif. On n'est pas non plus dans l'expression que l'on peut avoir dans la rue ou par Internet, où là, il n'y a pas du tout de caractère scientifique. Vous avez trouvé, je crois, en termes de méthode, un mixte entre les deux. C'est-à-dire sélectionner 40 jeunes, différents horizons, différents milieux professionnels, différentes opinions politiques, et donc vous avez, comme on le fait dans ce qu'on appelle un quanti et un quali surtout en matière de sondage, vous avez une représentation des jeunes qui est sincère, conforme à la réalité. Et vous ne vous contentez pas de les faire plancher pendant une demi-heure et de leur poser 3 bouts de questions pendant une demi-heure, mais vous les faites plancher pendant 6 jours. De ce point de vue-là, je trouve que la méthode qui est choisie est une vraie novation par rapport à ce qu'on se faisait traditionnellement en la matière. Donc sur la méthode, génial.
Merci. C'est un encouragement.
Ça ne veut pas dire que je vais partager toutes les positions. Ça, c'est un autre débat.
Bien entendu. Nous allons donc, une fois que, sur base de cette réaction, rentrer dans le contenu de la vie et nous allons successivement aborder les questions relatives à l'école, l'économie, l'Europe. C'est Stéphanie. Stéphanie qui vient de Strasbourg, qui a 29 ans, qui est une jeune maman qui va avoir son deuxième enfant.
Jeune ou futur ? Jeune maman et future maman.
Voilà. Et Stéphanie a donc la charge de vous faire part des principales orientations en termes d'école. Stéphanie.
Donc, rebonjour, monsieur Apparu. Donc, nos propositions vont dans le sens d'un changement radical de l'école pour que l'école assure à tous les élèves l'égalité des chances, mais aussi des réelles possibilités de choisir son avenir. Donc, nos propositions tournent autour de 5 thèmes principaux. Donc, la façon d'enseigner les contenus, en se concentrant sur le socle commun, en insistant sur la nécessité d'apprendre à apprendre, qui en ce moment n'est pas dans le socle en France, et par une approche pluridisciplinaire à partir de cas concrets. Deuxièmement, le mode de fonctionnement, donc une école ouverte sur la cité, avec davantage d'entraide entre les étudiants pour remplacer l'esprit de compétition. Troisièmement, les rapports entre élèves et enseignants, avec notamment d'autres modes d'évaluation. Quatrièmement, l'orientation et la réorientation pour lutter contre l'échec scolaire. Et cinquièmement, la formation des enseignants pour cadrer tout ça, qui pour nous est actuellement insuffisante. Donc ma question, vous avez pris connaissance des propositions qu'on vous a données autour de l'école, et quelles sont celles en fait qui ont particulièrement retenu votre attention de façon négative ou positive, et pour quelles raisons ?
Alors, du positif et du négatif. Il y a deux, trois sujets, sur lesquels on tombera, je le crois, les uns et les autres d'accord par rapport aux préconisations que vous venez de faire. Un, le socle commun de connaissances. C'est quoi ? Concrètement, on s'est dit, en 2005, dans une loi, on ne peut plus se contenter, pour l'ensemble d'une génération, donc 100% d'une génération, du lire, écrire, compter. C'est bien le lire, écrire, compter, mais ça correspond à l'ambition de la société, globalement, au début du XXe siècle. On considérait à cette époque-là que tous les gamins devaient lire, écrire, compter, mais c'est tout. Et que pour 95% d'entre eux, ça s'arrêtait là. Essentiellement les fils d'agriculteurs, on se disait c'est suffisant pour eux, ils n'iront pas plus loin, et la société d'ailleurs ne souhaitait pas qu'ils aillent plus loin. On s'est dit en 2005, peut-être que ces modalités pratiques là sont légèrement dépassées. Et aujourd'hui, la société attend pour 100% d'une génération qu'elle ait des bases de connaissances d'une culture commune qui aille au-delà du lire, écrire, compter. On a donc fait ce socle commun de connaissances qui correspond globalement à la fin de la troisième, en l'enrichissant bien évidemment sur une série de thématiques correspondant notamment à des décisions qui avaient été prises dans ce qu'on appelle la conférence de Lisbonne et les objectifs de Lisbonne sur l'ensemble du niveau de connaissances et de compétences des gamins en Europe. Votre préconisation sur ce socle commun de connaissances est de dire il faut mettre plus dedans. Et notamment mettre le « apprendre à apprendre », c'est-à-dire du comportemental et pas simplement du fond. Je vous rejoins totalement sur ce sujet-là. Ce qui fait la force de quelqu'un, c'est évidemment la somme de connaissances qu'il a pu acquérir au cours de sa scolarité. Mais c'est aussi sa capacité à se débrouiller tout seul, dans un monde qui est de plus en plus complexe, où les masses d'informations, notamment liées à Internet, sont de plus en plus nombreuses, et il faut que chacun ait la capacité de trier tout ça, et donc d'apprendre à apprendre. Donc sur ce plan-là, je vous rejoins totalement. Deuxième point sur lequel je vous rejoins totalement, c'est l'approche que vous avez considérée de transdisciplinaire. Aujourd'hui, le modèle, c'est quoi ? On a un modèle scolaire français qui est exclusivement centré sur les disciplines que l'on apprend à l'école. En gros, j'ai tant d'heures de maths, tant d'heures de français, etc., etc. Il y a deux évolutions, me semble-t-il, à faire. La première, c'est qu'il faut du temps hors matière scolaire. C'est bien d'avoir 25 heures de cours par semaine centrées sur des matières. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut qu'on bascule le système éducatif d'un système qui est exclusivement centré sur les matières à un système qui soit véritablement éducatif, c'est-à-dire avoir un temps hors matière. Premier élément et préconisation que le président de la République a faite à Montpellier il y a quelque temps. Deuxième sujet, l'approche transdisciplinaire en tant que telle, c'est-à-dire l'idée qu'on peut apprendre des choses avec plusieurs clés d'entrée. Pas simplement une clé d'entrée géographie, mais aussi une clé d'entrée maths. Et donc mettre un sujet au centre de l'apprentissage qui permet d'acquérir des compétences et des connaissances sur différentes matières. Sur ce plan-là, en termes pédagogiques, je vous rejoins également. Là où peut-être je vous rejoindrai un tout petit peu moins, c'est sur... je serais très partagé sur la question des notes. J'entends le modèle que vous préconisez, et je le partage, notamment au primaire. Sur le principe, dire que le commentaire est peut-être moins discriminant, moins frustrant pour un enfant qu'une note, j'entends le principe. Mon problème, c'est de savoir comment on passe de l'un à l'autre. Et là, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit si facile que ça à faire. Enfin, sur la formation des enseignants, on a eu un débat ces dernières années, IUFM, pas IFM, formation universitaire ou pas. Moi, j'ai le sentiment que les solutions qui ont été trouvées sont plutôt satisfaisantes. Et donc, j'ai le sentiment...
S'il vous plaît.
La première des choses en démocratie, c'est d'accepter d'avoir des positions différentes.
Je suis complètement d'accord.
On n'est pas obligé d'être d'accord les uns avec les autres. C'est pas grave. On peut simplement s'écouter.
Sans crier.
On en discutera sans forcément crier ou s'insulter les uns les autres. Ça fait jamais avancer le débat. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas la même position. C'est pas le drame du siècle. Mais je considère que ce qui a été fait était plutôt sain.
C'est une question de culture démocratique au sein d'AnimaFac. C'est important pour nous de se donner des cadres où on échange, on discute et on apprenne, effectivement, comme l'a dit monsieur Apparu, échanger avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, si vous vouliez juste respecter cette règle du jeu dans le cadre de ces échanges et effectivement ne pas crier ou d'avoir d'interruptions intempestives qui ne permettent pas le débat et qui sont juste des expressions, mais en tout cas, voilà, chacun a pu exprimer. C'est le temps d'échange de la fabrique avec, du coup, les candidats ou leurs représentants. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, par respect pour les participants de la fabrique, de bien vouloir respecter cette consigne, même si je sais que des fois c'est un peu difficile. Merci beaucoup.
Monsieur Apparu, nous allons ouvrir maintenant la page de l'économie et c'est Maëva qui vient de Lille, Maëva qui a Valenciennes, qui a 22 ans, excuse-moi Maëva. Et Maëva est étudiante en droit et elle est donc la porte-parole des points de focalisation du groupe, l'économie souhaitée à l'horizon 2017 et au-delà.
Voilà, je tenais déjà à vous remercier pour votre présence et pour l'écoute que vous avez vis-à-vis de notre groupe. Donc, au vu des propositions faites par la Fabrique citoyenne sur les thèmes de l'économie, nous avons résumé en trois points primordiaux l'économie que nous souhaiterions. Donc, cela s'exprime dans un premier temps par une reprise de pouvoir des citoyens sur l'économie. Donc en passant notamment, de manière assez globale, par plus de transparence des finances, ainsi que par une meilleure compréhension des enjeux qui y sont rattachés. Dans un second temps, par une économie ouverte sur le monde et répondant aux défis économiques de manière innovante et créatrice d'emplois. Et enfin, pour terminer, par une économie qui revoit sa manière de mesurer la richesse et de la répartir. Donc cela m'amène à vous demander, après lecture de nos propositions, lesquelles ont particulièrement retenu votre attention de manière positive, ainsi que celles qui ont retenu votre attention de manière cette fois-ci négative. Et bien sûr, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ces choix?
Alors, sur la partie économie du travail que vous avez réalisé à 40, globalement, je partage les analyses qui ont été faites et je trouve que le travail est très équilibré, relativement mesuré. Il y a une volonté de transparence, une volonté d'ouverture sur laquelle je vous rejoins totalement. L'une des difficultés principales que nous avons, y compris nous dans le milieu politique, c'est qu'on s'envoie à la tête matin, midi et soir des chiffres. Et c'est 75 milliards de ci, non c'est 50, non c'est 38, et personne n'est capable, pas plus d'ailleurs les journalistes, que ceux qui écoutent, de savoir qui dit la vérité. Donc il y a un besoin de transparence et d'objectivité, d'objectivation des chiffres que nous annonçons les uns et les autres, qui est absolument indispensable. Donc sur la transparence, je vous rejoins totalement. L'ouverture sur le monde, indispensable. J'entends bien que certains voudraient fermer les frontières dans tous les sens. Considérer que nous sommes dans une espèce de bulle française, voire européenne, je vous rappelle deux choses. 25% des emplois français sont directement dépendants de ce qu'on fait à l'étranger. Autrement dit, celui qui met des frontières dans tous les sens, il est tranquille, il met la clé sous la porte de beaucoup d'activités françaises. Et donc nous devons accepter, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça change, ce qu'on appelle la mondialisation. La question que vous vous posez, qu'on se pose nous aussi, c'est comment on rend humaine cette mondialisation. Parce que le sentiment que vous pouvez avoir et que vous exprimez très bien dans vos propositions, c'est le sentiment que nous ne sommes plus maîtres des décisions que nous prenons, ou plutôt que nous ne prenons pas, et que ce sont d'autres, des financiers, des grandes boîtes, des grandes multinationales, qui décident tout pour notre avenir. À partir de là, moi j'ai le sentiment et la perception que ce modèle-là, qui est le modèle dominant des années 90 et 2000, il va falloir le faire évoluer. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a constaté des choses. Parce que derrière, pour transformer, c'est pas nécessairement simple de le faire. Alors j'entends bien ceux qui sont apparemment là et qui font des petits signes comme ça, qu'ils ont, j'imagine, des solutions arrêtées, définitives, qui changeront tout et qu'en un claquement de doigts, on solutionnera des positions différentes entre 182 pays qui composent le monde. Bon, pourquoi pas ? On peut effectivement le souhaiter, le rêver, l'espérer, le fantasmer. Malheureusement, dans la vraie vie, dire à 182 pays et déjà 27 au niveau de l'Union européenne pour mettre tout le monde d'accord sur le même positionnement, pourquoi pas ? On peut le souhaiter, on peut l'espérer. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous évoquez également un troisième point qui me paraît très important, c'est de faire évoluer la mesure de la richesse. C'est un sujet très très compliqué, mais très important. Aujourd'hui, la mesure de la richesse, c'est le PIB. Nous ne prenons pas dans ce mesure de richesse le niveau éducatif d'une nation, le bien-être d'une nation, l'impact environnemental des décisions économiques que nous prenons. De ce point de vue-là, ça veut dire qu'on oriente toutes nos décisions collectives, publiques comme privées, dans un seul sens, celui d'une productivité sans cesse améliorée, productivité dont on sait aujourd'hui qu'elle mine, entre guillemets, notamment par exemple notre environnement. Donc de ce point de vue-là, nous devons faire évoluer ces notions-là. On a essayé, on avait commandé un rapport qui s'appelle Stiglitz, enfin à quelqu'un, pour essayer justement de regarder quelles autres composantes on pouvait mettre dans le calcul du PIB ou d'un autre chose. C'est là encore quelque chose de très compliqué, mais c'est une évolution sur laquelle je vous rejoins totalement. Quatrième point que vous n'avez pas évoqué, mais sur lequel je vous rejoins, la taxe sur les transactions financières. Nous allons, vous l'avez entendu, la mettre en place au niveau français. Je vous rappelle qu'il y a déjà des prémices qui ont été décidées en 2005. C'est Jacques Chirac, alors président de la République, qui avait mis une taxe sur les billets d'avion, qui a permis de financer la lutte contre le sida et le développement des politiques de santé au niveau mondial. Il y a 11 pays qui nous avaient rejoints, c'est pas suffisant, mais il y a eu une première étape qui a été faite et initiée par la France. Il y a une deuxième étape qui est aujourd'hui également initiée par la France, sur le plan européen. Nous anticiperons au niveau franco-français cette taxe, nous l'avons créée. Maintenant, notre job, dans les mois à venir, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, c'est évidemment de transformer l'essai et d'avoir cette taxe financière sur l'ensemble de l'Union européenne.
C'était d'ailleurs une des 50 mesures et elle se trouve dans le détail des mesures qui se trouvent dans la vie. Troisième coup de zoom, celui sur l'Europe, et c'est Arnaud qui vient de Lyon. Arnaud a 30 ans et Arnaud travaille, il travaille au niveau de la Société de Transport en Commun de Lyon. Arnaud.
Bonjour Monsieur Benoît Paru. Voici nos propositions pour une citoyenneté européenne renforcée. D'abord, si on veut que les citoyens se sentent européens, il faut encourager les occasions de connaître l'Europe et les autres Européens. En renforçant le sentiment européen par l'éducation, en rassemblant les citoyens par les symboles et en sensibilisant à travers les communications. Ensuite, il faut leur donner davantage d'occasions de débattre de l'Europe qu'ils souhaitent. Ça se passe par des droits des votes élargis, davantage d'élections directes et de démocratie participative. Pour nous, cela doit servir à infléchir le projet européen pour une Europe plus durable et plus solidaire. Quelle proposition de la fameuse citoyenne, auteur de l'Europe, ont particulièrement retenu votre attention, positif ou négativement, et pour quelles raisons ?
J'ai été plutôt effectivement dans le sens sur le sujet qu'on vient d'évoquer avant, l'économie. Sur l'Europe, je rejoins les principes que vous avez évoqués, moins les propositions. Il y a une proposition forte que vous faites, liée à ce qu'on appelle la démocratie européenne. Vaste sujet, comment là encore on arrive à mieux associer les citoyens aux décisions européennes. C'est pas simple, parce que vous avez un conflit de légitimité entre les décisions. Lorsque vous nous dites élection au suffrage universel direct des commissaires européens, ça veut dire quoi concrètement ? Que vous donnez une légitimité populaire et démocratique au collège des commissaires. Très bien. De l'autre côté, nous avons une autre légitimité, celle des chefs d'État et de gouvernement qui représentent aussi les citoyens et leur pays. Vous faites comment dans ce conflit de légitimité quand les deux ont la même légitimité ? Moi, j'ai une vraie question, une vraie interrogation par rapport à ça. Et je l'ai d'autant plus à la lumière de ce que nous venons de vivre. Nous avons eu, on ne va pas se raconter d'histoire, vous le savez aussi bien que moi, nous avons traversé des zones de turbulence absolument extraordinaires depuis 4 ans. Le gouffre, il n'est pas loin. Et pour certains pays européens, je pense évidemment à la Grèce, à l'Espagne ou au Portugal, le gouffre, ils sont tombés dedans. Ou en grande partie. Et ils mettront 15 ans à s'en sortir. Bon. On a réussi à limiter la casse. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, mais on a réussi à limiter la casse en France, me semble-t-il. Et on a réussi à peu près à colmater les brèches européennes. À peu près. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des chefs d'État, et deux en l'occurrence, Angela Merkel en Allemagne, Nicolas Sarkozy en France, qui ont pris le leadership européen et poussé lourdement à la décision. Je ne suis pas convaincu que si on avait laissé faire la Commission européenne, on aurait été si vite pour prendre les décisions que nous avons prises. J'en suis pas convaincu du tout. Et si nous voulons continuer dans cette direction-là, si nous voulons sur d'autres sujets, notamment par exemple sur la protection des marchés européens, sur les concurrences déloyales sur le plan social et environnemental que nous subissons de la part d'autres pays, il nous faut un leadership politique. Si vous avez un conflit politique entre des commissaires d'un côté, légitimes sur le plan du suffrage universel, et des chefs d'État et de gouvernement qui auraient la même légitimité, vous aurez un problème de conflit lourd, et ça se transformera, me semble-t-il, en une incapacité de gouverner l'Europe. Il faut un leadership politique. Ce leadership politique, il doit être assumé par les chefs d'État et de gouvernement, pas par la Commission.
Merci pour ce point de vue et cette réaction, Monsieur Paru. Nous avons là fait le tour des trois sujets de la fabrique. Le sujet générique, c'était la société que l'on veut à l'horizon de 2017. Alors, avant de nous quitter, nous avons encore quelques minutes. Il y a une dernière question que les membres de la fabrique voudraient vous poser, et j'en serai l'interprète. Et s'il y a d'autres points que vous souhaitiez soulever ici ?
Non, moi je souhaitais, comme vous l'avez demandé, répondre aux questions des 40 jeunes sur la méthode de travail qui a été la leur, sur les trois thématiques qui ont été exposées tout à l'heure, école, économie, Europe. J'ai évidemment sur ces sujets-là d'autres préconisations à faire, qui seront différentes des vôtres, qui iront plus loin, moins loin sur certains côtés, mais effectivement, sur la philosophie générale qui a été la vôtre, je trouve qu'on a là un travail très équilibré, et qui sort du yaka-faucon traditionnel que nous avons trop souvent, y compris chez nous, dans nos partis politiques. Et là, nous avons un travail qui est pesé, intelligent, équilibré, mesuré, et qui sort du claquement de doigts, où ce serait, si j'ai bien compris certains, tellement facile de tout changer en 3 secondes.
Alors justement, les membres de la fabrique vous prennent au bon. Projetons-nous au lendemain de l'élection présidentielle. La question que les membres de la fabrique vous posent, c'est si Nicolas Sarkozy est élu président de la République, est-il prêt à recevoir les membres de la fabrique pour avoir un échange approfondi cette fois sur l'ensemble des mesures et même envisager de mettre en œuvre des mesures qui ont été proposées par la fabrique. Je boucle un peu là avec votre propos introductif.
Alors, il vous a pas échappé que je m'appelle Benoît Apparu et pas Nicolas Sarkozy. Alors, même si j'ai à peu près la même taille que lui, c'est pas suffisant pour que je puisse me faire son porte-parole, oui, mais décider son agenda, non. Donc, ce que je peux vous promettre, ce à quoi je peux m'engager vis-à-vis de vous, c'est évidemment de me faire votre porte-parole. Moi, je mesure l'intérêt du travail qui a été fait. À moi, il est suffisamment convaincant pour le convaincre, s'il est élu, de vous recevoir au lendemain de son élection.
Merci beaucoup, Benoît Apparu. Merci beaucoup.
C'était Benoît Apparu, représentant Nicolas Sarkozy, confronté aux propositions de la Fabrique citoyenne le 17 février dernier lors du forum AnimaFac à la Villette. Retrouvez tous les jours à 18h30 jusqu'à dimanche sur le 88.8 FM un candidat différent ou son représentant confronté aux propositions politiques de la jeunesse française. Rendez-vous dès maintenant sur la page Fabrique citoyenne sur radiogrenouille.com pour retrouver l'intégralité de ces débats et toutes les informations sur ce dispositif original de participation citoyenne. Restez à l'écoute sur Radio Grenouille.